Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce 13 février, le gouvernement australien ordonne au personnel de l'ambassade d'Australie de quitter la capitale ukrainienne. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud entre encore plus en minorité avec la perte de la circonscription de Bega hier aux élections partielles de l'État. Les convois des libertés à travers le monde et une grosse foule hier à Canberra de ses opposants à la vaccination. La crise ukrainienne et le gouvernement australien a ordonné au personnel de l'ambassade d'Australie à Kiev de partir et a temporairement suspendu ses opérations à l'ambassade. La ministre des Affaires étrangères, Marisa Payne, a évoqué la détérioration de la situation sécuritaire causée par le nombre de troupes russes à la frontière ukrainienne. Le premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré que le gouvernement conseillait aux Australiens de quitter l'Ukraine depuis décembre dernier.
We have three remaining staff and they have been instructed now to move as other Five Eyes countries are to Lviv. And you would have seen the announcement from the United States as well and Canada. And that is the next stage in Australians being moved to safety. I want to thank particularly those three Australian-based staff who have been there supporting in a consular way the many Australians, many of whom are joint citizens, dual citizens, who are in Ukraine. But the situation, as you are all hearing as well, is deteriorating and is reaching a very dangerous stage.
Et puis, il y a eu l'entretien téléphonique du président américain Joe Biden avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le président américain a renouvelé son appel à une solution diplomatique. Les précisions de Lubna Anaki pour RFI.
Un échange téléphonique riche et professionnel. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, le président américain, je cite, était très clair avec son homologue russe. Si Moscou envahit l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés réagiront de manière résolue et les sanctions vont coûter cher à Moscou. Une mise en garde que Joe Biden a déjà lancée à Vladimir Poutine lors de leurs précédents échanges. Il a également insisté sur le fait que l'option de la diplomatie restait privilégiée. Un peu plus tôt dans la journée, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays se sont également entretenus. Mais au final, ces efforts diplomatiques ne changent rien à la situation. Selon un haut responsable américain, les Russes ne semblent pas vouloir changer de position ou retirer leur armée positionnée près de la frontière ukrainienne. Les Américains restent persuadés que la Russie pourrait lancer une invasion à tout moment. Ils ont d'ailleurs ordonné le départ de leur personnel diplomatique de l'ambassade de Kiev, ainsi que le retrait des soldats américains présents sur le territoire. 160 conseillers militaires qui étaient chargés d'entraîner l'armée ukrainienne.
En Australie à nouveau, les élections partielles en Nouvelle-Galles du Sud, alors que les votes par voie postale doivent être encore comptés, les résultats montrent jusqu'à présent que le gouvernement Perrottet a perdu la circonscription de Bega dans l'une des quatre élections partielles hier, plongeant davantage la coalition dans la minorité. Les électeurs de Bega, Monaro, Strathfield et Willoughby ont tous dû choisir de nouveaux représentants 4 mois après la démission soudaine de l'ancienne chef de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, ce qui a aussi incité 3 autres députés à faire la même chose. Malgré un revirement vers les travaillistes, les libéraux semblent prêts à garder Willoughby et les nationaux sont sur la bonne voie pour conserver Monaro. À Strathfield, Jason Yatsenley du Parti travailliste mène contre la libérale Bridget Scar et il devrait gagner grâce au vote préférentiel. Yatsenley a remercié les partisans d'avoir poursuivi leur travail sans crainte.
It is not okay that I and the Labor volunteers were subject to racist comments from opponents at polling booths whispered into the ears of voters.
Le Victoria a signalé 18 décès du COVID-19 et 7223 infections alors que les hôpitaux de tout l'État se préparent à reprendre les soins de santé non essentiels. Il y a 465 personnes dans les hôpitaux, 181 patients sont en soins intensifs. Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Galles du Sud déclarent que 1614 personnes sont à l'hôpital avec le COVID-19, 93 en soins intensifs. La Nouvelle-Galles du Sud a signalé 6686 nouveaux cas acquis localement et 22 décès liés au virus. Le Queensland a signalé 7311 nouveaux cas de coronavirus et 4 décès depuis hier. 496 personnes sont à l'hôpital et 4 personnes en soins intensif. La sénatrice des travaillistes, Christina Keneally, a déclaré que le Premier ministre tentait de vouloir profiter des votes des manifestants anti-vaccins. Des foules ont défilé hier sur le Parlement, fermant les rues autour de la capitale et mettant la police du territoire en état d'alerte, alors que la force policière surveillait la foule avec des drones et des hélicoptères. Scott Morrison a déclaré qu'il comprenait les préoccupations des milliers de manifestants et a souligné que la plupart des mandats de vaccination étaient imposés par les gouvernements des États. La sénatrice Christina Keneally a déclaré sur l'ABC que la grosse présence des forces de sécurité indiquait un degré d'inquiétude quant à une éventuelle violence, mais le Premier ministre Scott Morrison n'a pas condamné l'action, selon elle.
Yesterday we saw the Prime Minister saying he understood, and really your problem is with the states, not with me. This is a Prime Minister who set up the National Cabinet, who stood there and took credit for when the Premiers took measures. As soon as a group of protesters rocks into town critical of some of those decisions, he points the fingers at the Premiers, says it's not my fault, it's theirs. Why? He wants to harvest the second preferences of these protests.
Les manifestants anti-vaccins sont entrés dans une quatrième journée d'occupation des pelouses parlementaires en Nouvelle-Zélande, alors que le nombre de cas de COVID-19 continue d'atteindre des niveaux records. Vendredi, les responsables de santé ont signalé 446 cas communautaires, confirmant une tendance à la hausse qui a commencé il y a 3 semaines, lorsque la transmission du variant Omicron a été détectée pour la première fois. Les 446 cas, dont tous, sauf 3, se trouvent dans l'île du Nord, dont 340 à Auckland, et constituent un record quotidien pour le pays. À Wellington, 120 manifestants protestant contre la réponse du gouvernement à la pandémie ont été arrêtés après que le président du Parlement, Trevor Mallard, leur a ordonné de partir. Il a ensuite ordonné au personnel d'arroser la pelouse et aussi d'arroser les manifestants et de jouer des airs de Barry Manilow entrecoupés de messages sur les vaccins. Les manifestants ont répondu en jouant leurs propres chansons, y compris les Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It. À Paris, les convois de la liberté ont atteint hier les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement pour les disperser. Marine de la Moissonnière, RFI.
Drapeau tricolore aux fenêtres, une voiture blanche venue de Montpellier fait le tour de l'Arc de Triomphe. Très vite, des policiers interpellent sa conductrice qui part en garde à vue. La passagère, elle, reste sur le trottoir.
Ça a été très violent. J'ai été obligée de dire « Oh, doucement, doucement !» Mais je suis sûre que je ne serais pas sortie. Il aurait pu me frapper. Je me suis sentie vraiment en danger. J'en tremble encore. J'en tremble.
Des dizaines de camping-cars, de motos et de voitures continuent de défier les forces de l'ordre, place de l'Étoile, sous les applaudissements de manifestants venus dire leur ras-le-bol à l'image de Damien, 32 ans, ingénieur en informatique en banlieue parisienne.
Ce qui se passe, c'est qu'on est pacifique, on est là pour faire la fête, dire aux gens qu'on les aime, on est fraternel, et qu'on n'en peut plus de ces deux années-là de dictature sanitaire. On ne peut plus aller boire un café si on n'autorise pas de se faire une piqûre. Ma fille, elle est née il y a 2 ans, je n'ai pas pu aller la voir les 3 premiers jours parce qu'ils ont imposé qu'on était tous confinés. Nous sommes le peuple, nous voulons décider de comment nous allons vivre.
Les policiers finissent par disperser tout le monde à coups de gaz lacrymogène. Certains membres des convois de la liberté décident alors de rejoindre les cortèges des opposants au pass vaccinal dont les manifestations à pied avaient été autorisées.
Et maintenant, un mot sur la situation au Canada, sur les convois de liberté qui bloquent le pont Ambassada entre les États-Unis et le Canada. Les précisions de Claire Broadhurst pour RFI.
Des dizaines d'agents et de véhicules sont arrivés sur place plus tôt dans la journée. Ils ont pris position face à la cinquantaine de manifestants installés dans leurs camions et leurs pick-up pour paralyser le pont qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Détroit. La Cour supérieure de l'Ontario a ordonné vendredi le départ de ces manifestants installés depuis lundi sur cet axe frontalier majeur entre les deux pays voisins américains, un blocage qui a poussé Washington à intervenir auprès du gouvernement Trudeau. À la suite de l'injonction, la police de Windsor a publié un communiqué pour informer clairement les manifestants que le fait de bloquer le passage de la frontière constitue une infraction pénale. La police a ajouté qu'une telle condamnation pouvait entraîner la saisie des véhicules et l'impossibilité d'entrer aux États-Unis. Le blocage de cet axe a entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière. Les usines de General Motors, Ford, Toyota et Honda ont été contraintes d'arrêter la production et d'annuler des équipes de travail en raison de la pénurie de pièces causée par le blocus. Dans un discours prononcé vendredi, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a exhorté les camionneurs à rentrer chez eux maintenant, affirmant que leur frustration à l'égard des mesures Covid avait été entendue.
En Afrique, l'armée française annonce la mort de 40 djihadistes tués au Burkina Faso. Les précisions de Franck Alexandre pour RFI.
Pour retrouver ce groupe djihadiste dans l'immensité du parc naturel du W, Barkhane avait envoyé un avion de renseignement. Il a permis ce jeudi d'identifier la colonne djihadiste circulant à moto. Venue du Bénin, elle était déjà passée sur le territoire du Burkina. Dans la matinée du 10 février, un drone a mis hors de combat une dizaine d'hommes. Une patrouille de Mirage 2000 a procédé à trois nouvelles frappes, neutralisant une trentaine de terroristes, indique l'état-major des armées dans son communiqué. Les attaques coordonnées menées le 8 et 9 février par ce groupe djihadiste confirment les craintes de voir le terrorisme progresser vers la côte. Si la France pourrait bien annoncer dans les prochains jours le retrait de ses troupes du Mali, la priorité de Paris reste de poursuivre le combat aux côtés des pays africains, en particulier ceux du Golfe de Guinée. Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, l'a rappelé avec insistance mardi dernier lors d'une visite en Côte d'Ivoire.
En Australie, à nouveau, The Healing Foundation a témoigné un profond respect et une profonde gratitude aux survivants des Stolen Generations, à leurs familles et à leur communauté. Cela fait 14 ans, le 13 février 2008, que le Premier ministre Kevin Rudd a présenté les excuses au Parlement aux membres des générations volées de la communauté aborigène. La fondation a été créée après les excuses pour permettre aux survivants de partager leur histoire. La directrice générale du Healing Foundation, Fiona Cornforth, a déclaré que les excuses avaient validé les expériences des survivants après des décennies d'ignorance.
It meant so much to the healing journeys, in particular of those who have suffered and continue to suffer that enduring grief, loss and trauma.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 34 degrés, Adélaïde 33, Melbourne 34, Hobart 30, Canberra 25, Sydney 26, Brisbane 29, Darwin 32 et à Alice Springs, maximale de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce 13 février, le gouvernement australien ordonne au personnel de l'ambassade d'Australie de quitter la capitale ukrainienne. Les convois des libertés à travers le monde et grosse foule hier à Canberra de ses opposants à la vaccination. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud entre encore plus en minorité avec la perte du siège de Bega.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.